Voilà, vous êtes toujours dans Quoi de Neuf sur Radio Campus, 106.6 FM, campusil.com et en DAB+. Donc aujourd'hui, nous a rejoint Marie-Christine Vermel, qui est maître de conférence en sociologie et qui est l'une des personnalités qui est intervenue lors d'un colloque qui s'appelait Ludo Ergo Sum. Ça se passait à l'Iliade le 13 juin. Et nous y étions présents, donc avec Sandra et moi, et l'occasion de revenir sur ce colloque avec ce qui en a été dit au travers des intervenants qui se sont confiés à notre micro. Donc tout d'abord, bonjour Marie-Christine Vermel.
Bonjour.
J'ai le plaisir de vous interviewer, mais nous n'entendrons pas votre interview aujourd'hui puisque vous êtes ici. Alors, on va en profiter. Par contre, on a des gens que vous connaissez sans doute, qu'on va diffuser.
Oui.
Et si vous le voulez bien, on va les écouter.
Oui.
Et après, on fait une petite synthèse de tout ça, sachant que ce sont des extraits d'interviews beaucoup plus longues,
oui,
que vous auriez dû avoir à disposition sur leur intégralité. D'accord. En tout cas, vous allez les avoir très vite.
J'ai entendu les pastilles, oui.
Voilà. Et là, ce sont juste des extraits pour donner un petit peu d'idées de ce colloque. Mais sachant que beaucoup de choses en ont été dites et tirées, peut-être, je ne sais pas. On va voir après à quoi il a servi exactement. Alors, on va écouter trois personnes. D'abord, puisque ce colloque était autour du digital et comment on s'approprie ces outils-là, notamment dans des diagnostics, dans des façons d'évaluer des compétences, etc. Et il y a un logiciel qui a été créé, une application qui s'appelle SkillPass, qui a été présentée lors de ce colloque et qui était aussi l'objet de réflexions, d'analyses, de recherches. Voilà. Alors ce que je vous propose dans un premier temps, c'est d'écouter quelqu'un qui a développé cette application et il s'appelle Vincent Sommet et donc je l'ai retrouvé le 13 et voilà ce qu'il nous dit, mais au-delà de ce qu'il me dit à moi, il est en train d'expliquer à une personne, donc un visiteur on va dire de ce colloque, voilà un certain nombre de choses, donc j'ai eu l'occasion de capter un peu de propos de ce visiteur et de lui poser aussi quelques questions, donc là on a quelques extraits mais qui vous donnent un petit peu l'idée de ce programme, de ce logiciel, de cette application. Bonjour.
Bonjour, moi c'est Jaouni Tchernoumoussa, je suis en thèse 3 à l'université Lille 3. Avec Cyril Proféo.
Autre question ?
Il a parlé de cartographie de compétences. Je voulais un peu en savoir plus de quoi s'agit-il, quoi.
Alors, en fait, le dispositif, il repose sur un jeu sérieux. Donc, dans le jeu sérieux, en fait, on comprend ce qu'est une compétence, qu'elle se mobilise dans l'action et dans des contextes divers et variés. Ensuite, il y a une application web qui complète. C'est pour ça qu'on parle de dispositif, parce que c'est global. Et tout ça, en fait, est contrôlé entre guillemets, par la présence et la médiation pédagogique assurée par un formateur, un conseiller, un animateur, etc. L'idée, c'est de, quand on passe par le jeu, on vit une aventure, on s'immerge dedans, mais le travail qui est fait dans l'application dans un second temps, il est fait par analogie à ce qui se passe dans le jeu. C'est-à-dire que dans le jeu, vous incarnez un avatar qui n'est pas vous. Vous allez découvrir des situations que l'avatar vit, mais ce ne sont pas les vôtres. L'idée, c'est pas de dire aux jeunes, entre guillemets, copier-coller les compétences qui sont mobilisées dans le jeu, mais bien regarder comment les compétences sont en jeu dans ce serious game et comment vous pouvez, en fait, par analogie à ça, faire ce propre travail de votre côté sur vos expériences. Et quand je parle de cartographie des compétences, c'est que l'idée, justement, c'est qu'une fois que les jeunes, en fait, ont réalisé en présentiel ce travail d'explicitation autour de leurs compétences, ils vont rentrer dans l'application toutes les expériences qu'ils ont fait, les verbaliser en termes de compétences et aboutir, en fait, à une trace, une production écrite qui prend la forme, en fait, d'une carte de compétences. Mais réellement, le travail qui est réalisé avec SkillPass, c'est quelque chose d'intangible, d'immatériel, puisque le bénéfice réside dans la verbalisation, en fait, dans la capacité du jeune à s'exprimer et à se vendre, entre guillemets, sur le marché de l'emploi avec une terminologie liée aux compétences. Alors, je suis Vincent Sommet, je suis ingénieur pédagogique multimédia à ID6. Donc, ID6, c'est une association d'éducation qui est spécialisée, en fait, dans la ludopédagogie. On s'intéresse très largement à toutes les questions qui relèvent, en fait, d'ancrer du jeu dans des situations d'apprentissage. Aujourd'hui, le dispositif qui est présenté dans le cadre de la recherche fondamentale menée par le laboratoire Cyril Trigone, c'est SkillPass. C'est un dispositif, en fait, qui permet aux publics peu qualifiés ou qui ont été déscolarisés, en fait, faire un travail réflexif sur leurs compétences transversales. Donc les compétences transversales, ce sont des compétences qui émergent dans tout type de situations professionnelles et autres, d'ailleurs dans des situations diverses et variées. Et ces compétences peuvent être transférables à un contexte métier. Et donc l'idée de Skillpass, en fait, c'est de valoriser les expériences des individus, quelles qu'elles soient, donc des expériences de sport, loisirs, de volontariat, de bénévolat, associatif, etc. De faire un travail réflexif, de partir de ces expériences concrètes pour les jeunes et de les verbaliser en termes de compétences. L'idée, c'est qu'on puisse, dans le matériau qui est l'expérience des individus, chacun en fait opère un travail réflexif via le dispositif et s'interroge en fait sur ce qui s'est passé lors d'expériences très concrètes. Typiquement, on a très souvent en fait des jeunes qui sont investis dans des activités sportives, qui sont parfois organisateurs de tournois sportifs pour leur club, ou alors qui sont investis dans le bureau d'associations. Voilà. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir permettre à ces jeunes, en fait, via une méthode un peu différente, en passant par le jeu, de leur permettre un travail réflexif sur leurs propres expériences et leurs compétences transversales.
Voilà, donc pendant cette journée, de nombreuses personnalités, des chercheurs, ont réuni leurs expériences, ont mis en commun leur expérience pour mieux analyser ce procédé, on va dire, ce logiciel, hein, cette application, ce qu'il passe. On va écouter Pierre-André Caron, qui est lui aussi maître de conférence en sciences de l'éducation et dans ce laboratoire Trigone Cyrel qui portait cette journée. Donc on va écouter Pierre-André Caron.
Je suis Pierre-André Caron, je suis maître de conférence au laboratoire Cyrel dans l'équipe Trigone. Donc c'est une équipe qui est spécialisée sur l'enseignement, la formation des adultes, mais aussi par des moyens numériques. Et donc moi, je me situe plutôt dans un axe autour des pratiques de formation instrumentées par le numérique.
Donc cette journée aujourd'hui, avec quel objectif ?
Alors, cette journée, c'est de rendre compte d'une recherche qu'on mène depuis 3 ans dans le cadre du dispositif Skillpass. Donc Skillpass, c'est un dispositif d'apprentissage pour les jeunes, d'apprentissage des compétences un peu transversales et donc de découverte de ces compétences transversales. Donc ils vont découvrir les compétences dans le cadre d'un jeu. Et puis, à l'issue de ce jeu, il va y avoir au centre de la salle une discussion et on va leur dire, vous voyez, les compétences que vous avez découvertes dans le jeu, finalement, ce personnage que vous avez manipulé, si c'était vous, quelles sont vos propres compétences et essayer de leur faire poser un regard critique sur leurs propres compétences et essayer de les découvrir, en fait.
Donc on parle beaucoup de compétences, avant on parlait de connaissances, qu'est-ce qui a évolué et pourquoi ?
Effectivement, on parle de compétences. La compétence, en fait, c'est la connaissance en action, c'est-à-dire que j'ai pu apprendre des choses et puis dans le cadre après des activités que je vais mettre en œuvre, eh bien je vais être capable de mobiliser ces choses que j'ai apprises et cette mobilisation, ben, c'est la compétence en fait. Alors, les compétences peuvent être transversales et donc ne pas se référer à des savoirs particuliers. Lorsque je me pose la question, je sais pas, en mathématiques par exemple, eh bien, je manipule les fractions, etc. Et donc, j'ai des compétences après qui vont être de calcul, qui vont être associées à ces connaissances-là. Mais lorsque j'organise une fête avec des amis, il y a toute une série de compétences que je mets en œuvre et qui ne se réfèrent pas forcément à des savoirs académiques ni même professionnels. Et pourtant, ce sont des compétences qui sont très importantes en entreprise pour trouver du métier, un métier, et puis même pour l'exercer. Alors, il faut savoir qu'au-delà des compétences, il y a encore un autre élément qui est ce qu'on appelle les capacités. C'est-à-dire qu'au-delà de la compétence, est-ce que cette compétence que j'ai acquise, que j'ai, par exemple, je peux suivre par exemple, une formation, acquérir toute une série de compétences, etc. Compétences attestées par des actions, des activités qu'on me fait mener et que je suis capable de réussir. Est-ce que pour autant, je suis capable de les mettre en action dans ma vie ? Et donc ça, c'est la partie capacité, capabilité. Et donc, on a des cadres théoriques maintenant au-delà du savoir, de la compétence, on a également des cadres théoriques autour de la capacité.
Et donc, évaluer ses compétences, c'est pas aussi simple que ça. Il y a des publics pour lesquels c'est peut-être plus facile que d'autres, et d'autres, il faut aller chercher d'autres techniques.
Oui. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il faut, il faut bien comprendre que on a une majorité de gens pour lesquels le transfert entre la connaissance, la compétence et la mise en œuvre de ces compétences sous forme de capacité dans l'activité va se faire tout seul. Et ça, il n'y a pas de souci. Donc là, en fait, le dispositif dans lequel on est, c'est un dispositif qui va s'intéresser au laisser pour compte de, des dispositifs de formation. Et donc, ça ne remet pas en cause la généralité, le mainstream de tous les gens qui réussissent, etc. C'est simplement qu'on va un petit peu plus loin et qu'on dit, bah, finalement, il y a des gens qui sont passés à travers les grilles et ces gens-là, ils ne sont pas capables de construire des compétences ou alors ils ont acquis des compétences alors qu'ils ont eu un parcours scolaire qui était minimaliste. Est-ce qu'on est capable de... leur faire, c'est pour ça que je parlais de capacité, hein, c'est-à-dire est-ce qu'on est capable de leur faire prendre conscience qu'ils ont ces compétences-là et que donc ils vont pouvoir les mobiliser dans leur vie professionnelle.
Donc, si je comprends bien, on a à la fois au départ des gens qui ont des compétences, peut-être qu'ils ignorent ou ne sont pas forcément identifiés, donc peut-être des techniques pour les évaluer, pour les analyser, et puis aussi un développement de compétences où là, on est quasiment dans une pédagogie confiée en partie au numérique, mais aussi à des humains.
L'idée, c'est plus qu'un développement, c'est plus un révélateur. C'est-à-dire que c'est les mettre dans un espace, on parle d'espace capacitant, on les met dans un espace qui va leur permettre de prendre conscience qu'ils ont ces types de compétences et qu'ils peuvent les mobiliser dans des actions précises. Et donc dans le jeu, en fait, le personnage a des compétences et on va mobiliser ses compétences sur des actions, et puis après, en dehors du jeu, on va poser aux jeunes la question, bah finalement, et toi, dans ta vie de tous les jours, dans les actes que tu veux mener, quelles sont les compétences que tu pourrais, à ce moment-là, mobiliser ? Alors, ce n'est pas forcément une découverte des compétences, c'est simplement se rendre compte que, en général, il connaît ses propres compétences, sauf qu'il ne voit pas bien comment elles s'appliquent à la vie, en fait. Donc, c'est plus créer un espace... C'est pour ça qu'on parle d'espace capacitant, hein, créer dans un espace qui va donner la capacité aux jeunes de mobiliser ses compétences.
Voilà, toujours pour cette journée, le Goer Gossoum, on va écouter une troisième intervenante. Elle s'appelle Nassira Ait Abdesalam et donc on l'entend tout de suite sur Campus 106 FM.
Alors, donc je m'appelle Nassira Ait Abdesalam, je suis maître de conférence en sciences de l'éducation. Je suis rattachée au laboratoire CIREL et à l'équipe Trigone. Mes travaux portent plus spécifiquement sur la dimension de l'apprentissage. Finalement, quel est le sens que des jeunes dits en difficulté attribuent au fait d'apprendre ? Finalement, on suppose que ces personnes n'apprennent pas ou qu'il y a une forme de désaffection vis-à-vis de l'école. Et l'intérêt, c'est de voir justement, est-ce que c'est d'appréhender ce rapport, le rapport qu'ils entretiennent avec l'école d'une part, avec l'institution scolaire, quel regard ils portent sur l'école, quel regard ils portent sur les apprentissages, quel sens finalement ils confèrent à l'apprendre pour eux. Et au travers de la recherche qu'on a menée, on s'est rendu compte que effectivement, ces personnes apprécient apprécient d'apprendre. Ils ambitionnent en tous les cas d'apprendre. Ils développent pour un certain nombre d'entre eux une désaffection vis-à-vis de l'école. Néanmoins, ils en gardent un bon souvenir. Alors, ce qu'on a repéré dans cette recherche, c'est que l'école n'est pas investie au regard de ce qu'elle est censée faire, c'est-à-dire apprendre de ses apprentissages, mais elle est investie du point de vue des relations que les jeunes peuvent entretenir au sein de l'école. Donc l'école, elle est évoquée plutôt comme étant un lieu de socialisation avec les pairs, avec les relations que ces jeunes évoquent, ce sont des relations des relations avec les copains. L'école est investie, oui, sous sa dimension ludique. On est à l'école parce qu'on a envie d'y être pour partager de bons moments avec leurs camarades, parce qu'on rigole, parce que nous disent-ils, ils font des conneries, et parce qu'ils apprécient aussi, malgré tout, un certain nombre d'enseignants qui les ont aidés, disent-ils, à apprendre. Donc ils repèrent quand même des personnes qui ont été, qui les ont accompagnés dans leur parcours un peu chaotique au sein de l'école.
Pour les professionnels, donc il y a une confiance à établir, oui, avec des jeunes qui sont souvent comment je peux dire, un peu négatifs, qui ont vécu des choses difficiles. Comment pour eux réaliser donc cette mission? Est-ce qu'ils sont prêts à ça? Est-ce qu'ils ne souffrent pas eux-mêmes, d'ailleurs, ces professionnels, dans les établissements dans lesquels ils travaillent?
Alors, c'est difficile de répondre à cette question. C'est vrai qu'on n'a pas forcément... Enfin, pour ma part, je n'ai pas mené d'enquête auprès de ces professionnels qui éprouvent probablement des difficultés à accompagner ces jeunes. Quand vous parlez de professionnels, j'entends effectivement tous les acteurs du champ de l'insertion, du champ de l'accompagnement. En tous les cas, ceux qu'on a rencontrés sont ceux, entre autres, de mission locale et d'école de la deuxième chance. Ils rendent compte, en tous les cas, me semble-t-il, d'une particularité qu'ils rencontrent actuellement, c'est-à-dire que il y a une forme de réorientation de leur pratique d'accompagnement. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'injonction qui leur est faite au niveau institutionnel alors pas de changer de fusil d'épaule, mais en tous les cas de remanier leur pratique, au sens où un conseiller mission locale anciennement, nous ont-ils dit, hein, avait pour vocation d'accueillir des jeunes en individuel, faire ce qu'ils appellent du face-à-face. Aujourd'hui, avec l'arrivée d'un certain nombre de mesures, j'ai le sentiment, c'est plus qu'un sentiment, c'est ce qu'ils nous ont dit, que leur champ d'expertise est en train de changer. On leur demande plus d'être entre guillemets de simples accompagnants, mais on leur demande désormais d'être accompagnants, conseillers en insertion socio-professionnelle, mais aussi formateurs. Tant et si bien que, me semble-t-il, ils évoquent des difficultés à pouvoir appréhender ces différentes fonctions qui leur sont quelque peu imposées, à la fois du fait de l'arrivée de nouvelles mesures, qui, malgré tout, et en définitive, est une condition de la pérennité de leurs emplois. Donc, si vous voulez, ils sont pris entre deux feux. Est-ce qu'ils doivent, au service du maintien de leur institution, pouvoir se démultiplier, devenir un peu schizophrène, ou bien se cantonner à leur identité professionnelle? Donc il y a une forme de tension dans ce qu'ils nous disent, une tension à habiter leur nouvelle fonction.
Peut-être l'idée d'une nouvelle journée sur ce thème précis?
Certainement, en tous les cas, ce serait intéressant, à la condition qu'il y ait effectivement, que nous ayons un projet de recherche nouveau qui pourrait nous permettre de déployer une expérimentation, enfin de déployer une recherche sur la professionnalisation des acteurs du champ de l'accompagnement.
Voilà, vous écoutez Radio Campus 106.6 FM. Donc nous sommes avec Marie-Christine Vermel donc pour faire un petit peu le point sur cette journée, compléter ce qui a été dit par, on va dire, une partie de ses collègues, là aussi, hein, et voilà, donner ses impressions. Alors, tout d'abord, on va rappeler votre labo, donc Trigone. On peut peut-être le présenter de façon un peu plus précise, là.
Alors, le labo en question, en fait, c'est CIREL, le Centre interuniversitaire de recherche en éducation de Lille, qui comprend en fait trois équipes. Donc, quand on dit CIREL Trigone, les trois interlocuteurs, donc moi, Pierre-André Caron et puis Nassira Aït Abdeslam sont... On appartient à la même équipe qui est l'équipe Trigone qui s'intéresse tout particulièrement aux dispositifs de formation, à leur public, à leurs usages, mais aussi à tout ce qui aujourd'hui se développe beaucoup de l'instrumentation des apprentissages via le numérique notamment. Donc on s'intéresse aussi bien, on va dire, à la dimension des publics, donc par exemple Nassira a surtout travaillé sur l'axe quels sont les effets de ce dispositif, ce qu'il passe sur les publics, leur rapport au savoir, leur rapport à l'école et leur rapport à l'apprendre. On s'intéresse aussi aux pratiques des professionnels, et Pierre-André Caron et moi, parmi d'autres, on était sur cet axe-là de qu'est-ce que ce dispositif vidéoludique en fait amène comme transformation éventuelle des pratiques pédagogiques parce qu'il y a ce recours au numérique, et puis des pratiques pédagogiques aussi parce qu'il y a cette accroche à la compétence et notamment la compétence transversale.
Donc quand on parle pratique du numérique, c'est évidemment très large, c'est quelque chose qui se développe très vite, quelque part aussi des logiciels qui se démodent très vite aussi, et en plus des logiciels qui sont construits dans un certain temps pour un projet qui correspond à une demande, une attente, un besoin, et ces besoins peuvent peut-être aussi évoluer.
Ah oui, sans aucun doute. Sans aucun doute. En fait, là, nous, notre projet de recherche, il s'appuyait sur ce dispositif qui était en fait censé, enfin, qui est censé offrir. Alors, quand je dis il est censé, c'est pas pour dire qu'il ne le fait pas. Hein. C'est simplement parce que nous, on a un regard de chercheur et qu'on n'est pas des ambassadeurs de ce dispositif. Il est censé, effectivement, offrir une solution de valorisation et de verbalisation, conscientisation des compétences transversales de jeunes qui en fait ont dit peu ou pas qualifiés, loin de l'école, dit peu employables, et il leur offre la possibilité, ce dispositif, finalement d'extraire de leurs expériences de vie, de leurs expériences en dehors du professionnel ou du scolaire, des caractéristiques et des activités, des compétences transversales qui sont tout à fait valorisables et utilisables dans des activités professionnelles ou d'autres activités. Donc l'idée, c'est de pouvoir, on va dire, avoir un autre regard, construire un autre regard sur ces jeunes, mais y compris d'amener les jeunes et les professionnels à se forger un autre regard en identifiant un capital de compétences transversales qui est vivant, qui est dynamique. Bon, vous avez un certain nombre d'outils aujourd'hui qui, effectivement, ont une durée de vie plus ou moins, on va dire, programmée ou finie. Mais l'objet, il est celui-là, en fait. Ceci sachant que le dispositif ne fait pas tout en lui-même. C'est, il vise à la fois, on va dire, pour le jeune, à expérimenter la démarche d'identification de ses compétences en jouant, mais aussi en dehors du jeu, via justement l'animation qui est amenée par les professionnels, que ce soit des conseillers mission locales comme évoque Nassira, ou des formateurs qui essayent d'en faire quelque chose dans le cadre de dispositifs où ils accompagnent les jeunes dans leur définition de projet professionnel.
Donc un opérateur, un créateur de logiciels comme ça, est-ce qu'il répond à, je vais dire, un appel d'offres, ensuite un cahier des charges, et le cahier des charges, combien de temps il a pour répondre à la demande, pour intégrer cet outil au service d'une communauté, on va dire.
Alors là, c'est pas une question, on va dire, quelque part, qui était une question au cœur de la recherche. C'est une question qui est plutôt apportée, on va dire, à poser aux concepteurs. Bon, ce qu'on peut dire, puisque quand même, les concepteurs, on a travaillé avec eux et puis on les a interrogés à plusieurs reprises pour identifier les différentes étapes, en fait, de formation du projet. Tout ça, ça s'inscrit quand même aussi dans le cadre, on va dire, de l'appel au développement de la société cognitive, s'appuyant sur des outils numériques, le développement de compétences clés. Donc, vous avez un certain nombre de programmes européens. Et je pense que c'est comme ça qu'a démarré la genèse du projet de conception du dispositif SkillPass, qui visait, on va dire, puisqu'il y a société cognitive, mais aussi l'idée de aussi un grand marché, une grande mobilité des jeunes au sein de l'Europe, pour permettre, on va dire, à ces jeunes, via leurs expériences éventuellement de mobilité, de le traduire en connaissances, capacités acquises et mobilisées dans le cadre de mobilité. Donc c'est parti de cette, on va dire, initiative et sans doute aussi de financement européen. Et puis après, vous avez toute la, comment dire, la déclinaison habituelle. Vous avez des fonds européens qui sont aussi déclinés en région. Et puis vous avez comme ça des expérimentations qui sont soutenues. Et là, en fait, l'objectif du projet qui était permettre à des jeunes étiquetés sans savoir d'identifier et de valoriser des compétences parce qu'ils ne sont pas sans compétences, a effectivement recueilli l'agrément et le soutien d'un certain nombre d'acteurs. Ceci sachant que si vous positionnez ça aussi par rapport aux politiques publiques, est arrivé aujourd'hui un dispositif qui s'appelle Garantie Jeunes, qui consiste en fait à permettre aux jeunes dits sans qualité, qui sont ni en emploi, ni en formation, ni en éducation, reprendre le chemin d'un retour à une estime d'eux-mêmes et puis aussi de l'employabilité. Et voilà, ce dispositif, il a aussi, à un moment donné, il est entré dans un contexte qui a pu favoriser, on va dire, sa prise en compte et son soutien par rapport à des financeurs publics, par exemple.
Alors justement, ces financeurs, au départ-là, il y avait un financement européen. L'Europe, c'est l'Europe. La France a des problématiques peut-être spécifiques, des politiques qui évoluent au fil du temps. Est-ce qu'à chaque fois qu'il y a un ministre chargé justement d'aider les personnes en difficulté, enfin tout ce domaine, insertion, intégration, etc., il faut changer de logiciel?
C'est pas ce que j'ai dit. Je dis pas qu'il faut changer le logiciel et ça se démode. Disons que on surfe quand même sur une vague qui est une vague qui, à mon avis, est installée durablement et à travers laquelle, d'ailleurs, on pourrait regarder quelles sont l'évolution des politiques publiques en matière favoriser l'emploi pour la jeunesse. Globalement, je ne vais pas en faire un historique, mais elles s'inscrivent quand même dans un continuum qui est, bon, même si les outils peuvent changer, la démarche, elle est semblablement toujours pareil, de privilégier les expériences professionnelles, l'accès aux stages, la définition du projet professionnel. Là, ce qui est, on va dire, un peu quelque part innovant dans le dispositif SkillPass, c'est le fait que, on va dire, quelque part, on est dans cette démarche-là, mais on s'appuie sur de la valorisation d'expériences qui ne sont pas dans le champ professionnel, puisque ces jeunes-là, il est aussi pour eux très difficile d'accéder, y compris à des stages où ils ont pu expérimenter un certain nombre d'activités professionnelles dans un champ particulier. Et donc, la question de la transversalité représente un plus, on va dire, qui donne un peu des éléments nouveaux pour le caractère, enfin pour le travail sur l'employabilité, avec le fait que c'est effectivement de la compétence transversale.
Après, il y a une réflexion actuelle. Hein. Je pense que bon, c'est peut-être une préoccupation durable aussi, mais c'est quand on investit des financements sur des procédés, des recherches, etc., commencer le ruissellement vers les personnes qui sont les premières au cœur du dispositif, c'est-à-dire c'est notamment là ces jeunes qui sont un petit peu marginalisés dans la société d'une manière habituelle et que là on essaie de recentrer. Vous voyez ce que je veux dire ?
Du ruissellement, là, pour le coup, au regard du dispositif, il y a du ruissellement sur au moins trois dimensions. C'était les trois axes, d'ailleurs, de notre projet de recherche. Sur la question de quel rapport, on va dire, à eux-mêmes, à leur apprentissage, on travaille avec les jeunes à l'occasion de ce dispositif. Ça, c'est la dimension que Nassir a un petit peu évoquée. Il y a aussi un ruissellement aussi du côté des professionnels, puisque quelque part, dans le dispositif, il est considéré comme étant mobilisable aussi bien par des conseillers mission locales que par des formateurs, qui sont des formateurs, on va dire, étiquetés avec une discipline, hein, qui font de la remise à niveau en savoir de base, par exemple, ou des formateurs qui sont déjà des accompagnateurs autour de la définition de projet, la méthodologie de la recherche d'emploi, etc. Et puis, mais aussi des formateurs qui sont dans un dispositif un peu particulier qui est que sont les écoles de la deuxième chance. Donc, il y a aussi un ruissellement de leur côté, puisque quelque part, ce dispositif, c'est ce que montre d'ailleurs la recherche, les a interpellés par rapport à leurs propres référents. Et ça, c'est le troisième axe, aux propres référents qu'ils utilisent aujourd'hui pour accompagner ces jeunes. Et notamment, le référentiel de compétences transversales les interpelle, puisque finalement, il offre... Après, il y a tout type d'accommodation et puis d'arrangement suivant les professionnels, mais il les interpelle parce que il leur permet, on va dire, effectivement, d'explorer la verbalisation de capacité des jeunes sur des terrains qu'ils n'ont pas nécessairement aujourd'hui défrichés.
Alors Sandra est restée avec nous, elle a participé à cette journée, elle a interrogé des personnes, elle a essayé de glaner un peu quelques idées, peut-être qu'elle pourrait avoir un regard, Sandra.
C'est juste une question que je me pose en vous écoutant parler, c'est que, donc si je comprends bien, ce qu'il passe, c'est un peu une sorte de logiciel de fonctionnement fait afin de rattraper les gens qui n'auraient pas réussi à l'école, c'est bien ça? Donc, pourquoi est-ce que vous financez, enfin vous faites de la recherche dans quelque chose afin de rattraper ceux qui n'ont pas réussi plutôt que de prendre le problème à sa source, c'est-à-dire l'école, et de faire de la recherche afin d'améliorer le système éducatif de base?
C'est une excellente question. Premier élément de réponse par rapport à votre question, c'est que le système de recherche est ainsi fait à un moment donné, quand on a très modestement, quand on lance un projet de recherche, on le lance sur un objet précis, et cet objet, on va dire, il prend en considération un certain nombre d'éléments du social, et il est obligé, on va dire, d'en ressortir d'autres, puisque sinon on n'arrive pas à construire une démarche scientifique solide pour, on va dire, justifier et affirmer ce qu'on va dire par rapport à l'objet qu'on observe. Donc là, pour le coup, si vous voulez, on n'est pas dans le champ scolaire, on est dans le champ effectivement de la question donc en formation d'adultes. Hein, le CIREL, il est rattaché par exemple au département de sciences d'éducation et formation des adultes. Et donc là, on est sur un objet qui est en quoi ce dispositif vidéoludique, il permet non pas de rattraper ces jeunes, mais de, on va dire, travailler avec ces jeunes, le fait qu'ils ne sont pas sans savoir, sans capacité et sans compétences, malgré leur échec scolaire. Et ça consiste aussi à ce dispositif, à faire en sorte que ces jeunes, finalement, puissent s'inscrire dans une recherche d'emploi, dans une démarche d'insertion, où ils sont pas sans rien et privés de tout, quoi, en fait. Et donc, c'est, alors maintenant, la question du champ scolaire et du travail à la source, bah oui, il y a aussi des recherches qui portent là-dessus, mais notre projet à nous, il concernait tout particulièrement cet objet-là, des jeunes dits, alors on les appelle NEET, hein, ni en emploi, ni en éducation, ni en formation, qui représente, on va dire aujourd'hui, une population extrêmement fragile et en grosse difficulté de retour à l'emploi, qui sont dans des emplois, dans des durées de chômage extrêmement longues, puisque aujourd'hui on sait très bien que le diplôme, quel qu'il soit, il continue à préserver le chômage des jeunes. Donc là, on a délibérément, on va dire, été regarder ce qu'un dispositif visant à considérer qu'ils ne sont pas sans rien et accompagner les jeunes aussi à avoir aussi un peu un autre regard sur eux et finalement à transférer et à traduire leurs expériences en compétences qui sont tout à fait, on va dire, valorisables et à leurs yeux et aux yeux de leurs collègues, de leurs camarades, de leurs formateurs et de potentiels employeurs. Il a ça comme objectif. Il n'est pas dans une logique de rattrapage.
Alors, on n'a pas précisé, peut-être ce serait le moment de le faire, combien de jeunes sont directement là sur ce dispositif intégrés à cette réflexion. Ça touche combien par rapport à combien de jeunes qui ont ces problèmes-là?
Oui, alors en fait, si vous voulez, nous on est sur la recherche, on a créé un dispositif qui permet effectivement d'accompagner et d'interroger les différents acteurs concernés par le déploiement de cette expérimentation. Mais cette expérimentation, elle est arrivée à un moment qui a été assez défavorable parce qu'il y avait une réorganisation, on va dire, de la formation des adultes et des jeunes. À ce moment-là, il y avait la garantie jeune qui se mettait en place. Et donc, finalement, elle a touché, on va dire qu'il y a un quart des professionnels, par hypothèse, hein, qu'un quart des professionnels qui ont été formés pour mettre en place ce dispositif, qui l'ont effectivement utilisés dans leur pratique avec les jeunes
en région.
Voilà, en région. Et alors pour le coup la région c'est strictement limité pour le moment au département du Nord et du Pas-de-Calais, puisque en fait la loi NOTRe est arrivée entre temps. Et puis du point de vue, donc on a interrogé 63 professionnels qui ont répondu à notre questionnaire et à notre démarche d'entretien pour restituer justement leur expérience de cet usage du dispositif, ce qu'ils passent. Et s'agissant des jeunes, il me semble qu'on est à une petite soixantaine de jeunes. Alors ça ne veut pas dire, ça n'exclut pas tous les jeunes qui ont été, ce n'est pas représentatif de tous les jeunes, mais on est quand même sur des proportions relativement faible sur la période à cause de ce malheureux concours de circonstances, on va dire.
Est-ce qu'on peut avoir une idée de cette journée et même d'avant, hein, de vos travaux? Est-ce que vous aboutissez au-delà des constats, à des propositions?
Des propositions. Ben, c'est pas vraiment, on va dire, le but de la recherche que de faire des propositions. En même temps, notre journée, elle a eu un certain succès parce qu'il y avait quand même pas mal de participants et parmi les participants, il y avait pas mal de professionnels qui ont entendu parler de ce qui passe ou qui ont expérimenté des dispositifs un peu équivalents. Et en termes de propositions, pas des propositions, on a plutôt des questions, si vous voulez. Et c'est une question qui a été un petit peu d'ailleurs évoquée par dans le témoignage de Nassira, hein, dans la troisième pastille, là, c'est la question de certes, ça valorise les compétences transversales. Il ne faut pas négliger l'import des compétences transversales et leur capacité, on va dire, de transfert en situation professionnelle. Et maintenant, la question, c'est est-ce que ces compétences transversales, elles remplacent le savoir, elles remplacent des connaissances? Pour nous, c'est une vraie question. Et ça, c'est première chose. Deuxième chose, c'est est-ce que, on va dire, si On filait un peu, on va dire, loin les choses, et puis qu'on considérait que on va ne parler que de compétences et on va plus s'intéresser aux connaissances et au savoir. Que restera-t-il des activités de remise à niveau, de formation de base, d'acquisition des compétences clés du dispositif européen, par exemple, du référentiel européen dans l'offre de formation proposée aux jeunes. Et ça, c'est vachement, enfin, c'est, pour nous, c'est très important. Dire, de ne pas être dans une logique de substitution des connaissances et des savoirs par la compétence. Parce que les compétences sont une chose, mais savoir et connaissances, bon, par exemple, notamment en matière de maîtrise du lire, écrire et communiquer, qui est fondamental.
Bien voilà, merci beaucoup donc pour votre éclairage, Marie-Christine Vermel. Votre laboratoire qui fera sans doute d'autres brillantes journées. J'espère qu'on aura l'occasion aussi d'y retourner.
Avec plaisir.